VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 13 décembre 2017. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
Persistance de la violence dans le centre de la République centrafricaine.
En Côte d'Ivoire, grève illimitée des professeurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.
Au Libéria, le second tour du scrutin présidentiel est fixé au 26 décembre.
Surprise à l'élection sénatoriale de l'Alabama ici aux États-Unis, victoire du candidat démocrate et revers pour le président américain Donald Trump.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Le centre de la République centrafricaine est toujours en proie à de violents combats. Deux groupes armés rivaux continuent de s'y affronter depuis dimanche dernier. Un chef anti-Balaka a été tué dans les heurts qui ont provoqué le déplacement de milliers de personnes. Le point avec notre correspondant Freeman Sipila.
Les deux groupes rivaux, notamment ex-Silekai anti-Balaka, s'affrontent depuis plusieurs jours à Ipi et depuis dimanche dernier à Ndassima, une localité minière de la préfecture de l'Awaka. Difficile pour le moment de donner un bilan de ces combats car la communication via ces zones est coupée. Selon plusieurs sources, le général Gaïton, un redoutable chef anti-Balaka, a été tué dans les heurts. Craignant les représailles de ces hommes et vu l'intensité des affrontements, plusieurs milliers de personnes ont fui en brousse. Anatole Ndemagouda, député de la région, appelle à l'aide.
Tous les villages comme Njoubissi, Ndassima, Gralenji et Bamodo se sont vidés de leur population. Certains ont fui vers Bambari, d'autres vers Bakala. D'autres encore sont en brousse, démunis de toute assistance. Je demande au gouvernement de dépêcher un contingent en vue de protéger les ressources minières du pays, objet de convoitise de ces groupes armés-là. Quant à la MINUSCA également, elle a intérêt à mettre en application la résolution des Nations Unies qui définit clairement son mandat.
À Bangui, la capitale, l'opposition et la société civile dénonce le mutisme du gouvernement et appelle à la fermeté face aux groupes armés. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Concernant toujours la République centrafricaine, la Russie a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU une exemption à l'embargo sur les armes imposées à la RCA, et ce afin d'équiper deux unités de l'armée de ce pays en cours de formation. Selon des sources diplomatiques, cette demande apparaît conforme à la volonté de l'ONU de voir se renforcer une armée faible, dépourvue de formation et d'équipement. Elle a toutefois suscité des inquiétudes de la France sur les conditions de stock des armes et munitions fournies, selon une de ses sources.
En Côte d'Ivoire, les professeurs de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ont entamé hier une grève illimitée pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires. Des détails avec Solange Diamoulissa.
Le secrétaire général de la Coordination nationale des enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire, Kwasi Zamina Johnson, a déclaré qu'ils vont rester en grève jusqu'à ce que le gouvernement paye les heures supplémentaires effectuées durant l'année 2015-2016. L'État devait les payer avant juin 2017. Selon le syndicat des étudiants, l'université était hier totalement à l'arrêt. Selon les chiffres de l'administration, les heures supplémentaires non payées représentent un total de 8 073 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire fait face à une large grogne sociale depuis le début de l'année. Les fonctionnaires de différents secteurs ont mené plusieurs mouvements de grève. Le gouvernement et les syndicats ont signé en août une trêve sociale de 5 ans, moyennant le paiement sur plusieurs années d'arriérés de salaire pour environ 130 000 fonctionnaires.
Au Libéria, le second tour du scrutin présidentiel est fixé au 26 décembre. Jérôme Corcoya, président de la commission électorale, l'a annoncé hier au cours d'une conférence de presse. Le point avec Blanche Sanou.
La Commission électorale nationale du Libéria a fixé au 26 décembre le second tour du scrutin présidentiel entre l'ex-star du foot George Weah et le vice-président sortant Joseph Boaké. Initialement prévu le 7 novembre, ce second tour a été reporté par la Cour suprême pour permettre de statuer sur la plainte du candidat Charles Bromskin, arrivé troisième. La commission électorale a définitivement rejeté le 24 novembre les recours Bromskin et Boaké, mais la haute cour a ordonné une révision des listes électorales avant toute fixation de la date pour le second tour. Donc le 26 décembre, on saura peut-être qui sera le successeur d'Hélène Johnson-Sirleaf, première femme élue à la tête d'un État africain. Le mandat présidentiel débute le troisième lundi ouvrable de l'année suivant l'élection, ce qui laisse peu de temps pour respecter les délais constitutionnels.
La France réunit mercredi une vingtaine de dirigeants pour accélérer la mise en œuvre de la nouvelle force conjointe G5 Sahel en raison de l'urgence sécuritaire sur le terrain. Le président français a convié au château de la Selle-Saint-Cloud près de Paris ses homologues du G5 Sahel, le Malien Ibrahim Boubacar Keïta, le Nigérien Mahamadou Issoufou, le Burkinabé Roch Marc-Christian Kaboré, le Tchadien Idriss Déby et le Mauritanien Mohamed Oubd Abdelaziz. De leur côté, des partenaires de la force commune, l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, la chancelière allemande Angela Merkel et les chefs des gouvernements italiens Paolo Gentiloni et belge Charles Michel. L'Arabie saoudite, les Émirats et les États-Unis y participent également. L'objectif est d'accroître la mobilisation au profit du G5 Sahel sur les plans militaires, politiques et financiers, a expliqué l'Élysée.
En Tunisie, un soldat a été tué et 6 autres blessés par l'explosion d'une mine dans la zone montagneuse de Chambi, dans le centre-ouest, considéré comme un des principaux maquis des djihadistes dans le pays. La nouvelle a été annoncée hier par le ministère de la Défense. Un groupe lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique et appelé la phalange Okba ibn Nafa a revendiqué l'attaque selon le site américain de surveillance des sites djihadistes, SITE. L'essor d'une mouvance djihadiste en Tunisie depuis la révolution de 2011 est responsable de la mort de plusieurs dizaines de soldats, de policiers, de touristes et aussi de civils.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le candidat démocrate Doug Jones a remporté l'élection organisée mardi pour un poste de sénateur dans l'Alabama, infligeant indirectement une défaite à Donald Trump dans cet État conservateur du sud des États-Unis. Le point avec Jean-Roger Bion.
Le candidat démocrate au Sénat dans l'État de l'Alabama a réussi l'exploit de se faire élire mardi dans ce bastion conservateur. Doug Jones, un ancien procureur fédéral de 63 ans, a battu Roy Moore, dont la campagne a été minée par des accusations de comportement sexuel déplacé à l'égard d'adolescentes lorsqu'il était plus jeune. Acclamé par ses partisans, Doug Jones a salué une victoire de l'État de droit et de la décence. Les républicains vont conserver le contrôle des deux chambres du Congrès, mais le résultat de cette élection dans l'Alabama va réduire leur majorité au Sénat à seulement 51 voix contre 49 aux démocrates, ce qui pourrait compliquer davantage les efforts de Donald Trump pour faire avancer ses projets. Le président américain avait publiquement apporté son soutien à Roy Moore, malgré les accusations portées contre le candidat républicain. Le réveil est très personnel pour le président des États-Unis qui avait appelé ses partisans à la loyauté au nom de la poursuite de son programme de réforme. Jamais depuis 1992, un démocrate n'avait été élu sénateur dans cet État du Sud. À noter que le candidat républicain Roy Moore n'a pas reconnu officiellement sa défaite et a dit compter sur un recompte des voix.
Les procureurs du gouvernement fédéral américain ont annoncé hier des charges de terrorisme contre Akayed Oula, l'immigré bangladais de 27 ans accusé d'avoir tenté de commettre un attentat à la bombe artisanale lundi dans le métro de New York. Selon les autorités, il a reconnu avoir été inspiré par le groupe État islamique. Parmi les chefs d'accusation, pose de bombes dans un lieu public et utilisation d'armes de destruction massive qui sont passibles de la prison à vie.
Le président Donald Trump a accusé les démocrates d'attiser la controverse sur les allégations de harcèlement sexuel portées contre lui avant son élection à la Maison-Blanche. 24 heures après que 56 parlementaires, membres du groupe de travail des femmes démocrates, ont demandé au leader de la Chambre des représentants d'ouvrir une enquête sur ces allégations, M. Trump a accusé les démocrates de politique politicienne et a démenti de nouveau connaître les femmes qui l'accusent.
Plusieurs dizaines de dirigeants musulmans se réunissent aujourd'hui à Istanbul pour un sommet consacré à la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël, à l'appel du président Recep Tayyip Erdogan, qui espère les rallier à une riposte ferme. Cette reconnaissance de Jérusalem a suscité une réprobation quasi unanime dans le monde et des manifestations de colère dans plusieurs pays du Moyen-Orient. M. Erdogan a convoqué ce sommet, lors duquel il espère unifier le monde musulman derrière sa ligne de fermeté, mais la tâche s'annonce difficile. Plusieurs pays de la région, comme l'Arabie saoudite, tentant de cultiver de bons rapports avec l'administration Trump sur fond d'hostilité commune envers l'Iran.
Le sommet sur le climat a ouvert ses portes hier à l'ouest de Paris avec plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Le financement de la lutte contre les effets du réchauffement climatique est au cœur des discussions. Raïssa Girondin.
Plus de 600 millions de dollars sur 3 ans vont être consacrés à la recherche en agriculture. La Fondation Bill et Melinda Gates a promis hier 315 millions de dollars afin d'aider les agriculteurs les plus pauvres, notamment en Afrique, à s'adapter au changement climatique. Cette somme s'ajoute à la contribution de 318 millions de dollars de la Commission européenne annoncée hier en marge du sommet sur le climat à Paris. En 2015, à la COP21, les pays du Nord avaient promis 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 aux pays du Sud moins pollueurs, mais les plus affectés. Environ 800 millions de personnes pauvres, la plupart vivant en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, dépendent de l'agriculture. Elles font face à des difficultés croissantes dans leur lutte pour la survie à cause des effets du réchauffement de la planète.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
En Guinée, Alliance Minière responsable a débuté la production de bauxite à Boké. Les premiers chargements ont rejoint le port fluvial de Dapilan pour exportation en janvier 2018. Cette société minière française permettra à la Guinée de passer la barre des 50 millions de tonnes en 2018 pour s'affirmer dans le trio de tête des producteurs mondiaux. Le gouvernement camerounais et le PAM vont mobiliser près de 102 milliards de francs CFA pour combattre la faim. C'est dans le cadre d'un plan stratégique 2018-2020 pour améliorer la sécurité alimentaire dans les régions de l'extrême nord, du nord, de la Damaoua et de l'est. Ces zones sont considérées comme les plus pauvres du Cameroun. Ce programme fournira des repas aux élèves des écoles primaires, augmentera les revenus des petits exploitants agricoles, mettra en place des infrastructures communautaires et réduira la malnutrition chez les enfants. Enfin, en Angola, Isabel dos Santos, fille de l'ex-président José Eduardo dos Santos, s'insurge contre l'autorisation d'une 4e licence de télécommunication. Le marché angolais constitue 24 millions de consommateurs. Elle détient une participation de 25% dans United. Le président João Lourenço a entamé un nettoyage de l'environnement des affaires hérité de son prédécesseur. Il a ouvert la concurrence dans le secteur des télécommunications. Quelques jours après le limogeage d'Isabel dos Santos à la tête de Sonangol, la société pétrolière.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Nouvelle défaite pour le WAC Casablanca à la Coupe du Monde des clubs.
Le Wydad Athletic Club battu à Abu Dhabi dans le match pour la 5e place. Les Japonais d'Urawa qui s'imposent 3-2. Et dans la première demi-finale qui opposait hier les Mexicains de Pachuca, tombeurs des Marocains, au Grêmio, eh bien ce sont les Brésiliens qui se sont imposés 1-0. Ils accèdent ainsi à la finale. Et leur adversaire, eh bien, il sera déterminé aujourd'hui grâce à la seconde demi-finale à suivre entre Al Jazeera Abu Dhabi et le Real Madrid favori.
En Angleterre, Manchester City peut-il battre tous les records?
Lors de la 17e journée de la Premier League, les Citizens qui caracolent en tête, ils ont l'occasion ce mercredi contre Swansea de remporter une 15e victoire consécutive, ce serait un record. Manchester City qui compte déjà 11 points d'avance sur le dauphin Manchester United qu'ils avaient battu à Old Trafford, c'était dimanche, 2-1. Et bien pour les Red Devils de Manchester, ils jouent contre le mal classé Bournemouth. Enfin, Tottenham joue contre le promu Brighton.
Malgré la suspension, la Russie va laisser ses athlètes participer aux JO d'hiver 2018.
Oui, les instances olympiques russes ont confirmé hier la participation sous bannière olympique des sportifs russes aux Jeux olympiques de 2018 en Corée du Sud. Et ce, une semaine après la suspension du pays par le Comité international olympique. A noter qu'environ 200 athlètes russes pourraient participer aux Jeux, un chiffre équivalent à celui des Jeux de Sochi en 2014. Et puis Idrissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Atlanta et Cleveland 114-123, Denver et Detroit 103-84, LA Lakers et New York Knicks 109-113, Washington et Brooklyn Nets 98-103, San Antonio et Dallas 89-95.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sedoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'Office pour les migrations internationales tire la sonnette d'alarme sur une éventuelle catastrophe humanitaire en République démocratique du Congo. L'OIM cite en particulier les violences à répétition dans l'est de la RDC et la crise au Kasaï et dans la région du Tanganyika qui provoque un grand nombre de déplacés internes et de réfugiés. Solange Niamoulissa a joint Jean-Philippe Chosy, chef de mission de l'OIM en République démocratique du Congo.
La situation humanitaire en 2017 est déjà extrêmement préoccupante puisqu'on a plus de 4 millions de personnes déplacées à l'intérieur même du pays dans les provinces qui ont été déclarées au niveau d'urgence 3 par les Nations Unies, à savoir le Tanganyika, le Grand Kasaï, le Sud Kivu. Mais on a aussi une situation extrêmement préoccupante au Nord Kivu en raison de l'insécurité persistante, de nouveaux déplacements avec par exemple 6 sites spontanés qui se sont créés au cours des dernières semaines avec 20 000 personnes qui aujourd'hui ne reçoivent aucune assistance. Donc malheureusement, nous sommes obligés de nous préparer pour 2018, une année qui pourrait être encore plus difficile, avec plus d'insécurité, en raison notamment de la situation politique qui demeure bloquée, avec des groupes armés qui se multiplient, qui se fragmentent, qui terrorisent la population.
Mais depuis 1996, il y a toujours eu des déplacés internes en RDC. Est-ce que c'est seulement la question des déplacés internes ou il y a d'autres facteurs?
On a, si vous voulez, une extension de l'insécurité, du conflit et un nombre de plus en plus important de personnes vulnérables qui sont dans des zones qui aujourd'hui sont extrêmement difficiles d'accès. Donc ce n'est pas parce qu'on a eu de par le passé une insécurité qui a entraîné des déplacements en RDC qu'on doit ignorer aujourd'hui le fait que ces déplacements se sont accélérés, que les besoins ont augmenté de manière considérable, phénoménale, puisque le plan de réponse humanitaire pour 2018 double, c'est-à-dire que de quelques 800 millions de dollars cette année qui n'ont malheureusement pas été financés à hauteur, eh bien on passe pour l'an prochain à peu près 1,5 milliard. Les besoins sont énormes et malheureusement on a l'impression que la RDC n'est pas vraiment sur le radar de la communauté internationale, d'où cet appel à financement à hauteur de 75 millions de dollars pour 2018 que l'OIM vient de lancer aujourd'hui.
Et que faut-il faire pour éviter cette catastrophe humanitaire ?
La protection des Congolais incombe au gouvernement, la protection des personnes déplacées incombe donc à l'État souverain du Congo. Il faudrait aussi que les bailleurs puissent prendre la mesure de l'urgence en RDC et malheureusement de la catastrophe humanitaire qui est en train de se profiler, c'est rien à faire. Il faudrait aussi que l'on puisse obtenir accès à des zones qui sont aujourd'hui difficiles en raison notamment de cette insécurité et des groupes armés illégaux qui opèrent dans des grandes parties non seulement de l'Est de la RDC mais également au Kasaï et également que l'on puisse obtenir des garanties de la part des forces armées congolaises qu'elles puissent laisser les humanitaires faire leur travail en toute neutralité, en toute impartialité pour qu'on puisse apporter cette aide qui est tant attendue aujourd'hui de la part des déplacés en RDC.
Jean-Philippe Chosy, chef de mission de l'Office international pour les migrations, l'OIM, en République démocratique du Congo.
VOA Afrique, 24h sur 24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a lancé hier les activités relatives au référendum sur la constitution dans la province de Gitega, au centre de Bujumbura. Ce référendum approuvé en Conseil des ministres va abolir l'article sur la limitation des mandats présidentiels selon les opposants. Des politiciens de l'intérieur du pays et ceux qui ont fui ne veulent pas que l'on touche à l'accord de paix et de réconciliation signé en 2000 à Arusha. Reportage de Christophe Nkurunziza, notre correspondant à Bujumbura.
Un projet d'amendement de la Constitution qui fera l'objet d'un référendum populaire, une date qui n'est pas encore précisée, a été dernièrement approuvé par le Conseil des ministres au mois d'octobre de cette année. Le président burundais Pierre Nkurunziza a lancé officiellement les activités relatives à ce référendum dans la commune de Bugendana, province de Gitega, au centre du Burundi, devant tous les administrateurs et gouverneurs du pays. Désormais, il y aura un président qui va légiférer, un premier ministre, chef du gouvernement, les deux issus de la même famille politique et un vice-président d'une autre formation politique, selon le dernier Conseil des ministres. ministres. 77 articles de la Constitution vont changer, tandis que 3 vont être enlevés. Le président Pierre Nkurunziza a appelé les présidents des partis politiques à avoir un comportement exemplaire.
Au président des partis politiques, nous leur demandons d'afficher un comportement exemplaire, digne de véritables démocrates qui aiment leur pays. Ils ne doivent pas non plus travailler contre ces activités de lancement du référendum de la Constitution. Les politiciens doivent expliquer ce projet en respectant les lois en vigueur.
Les membres de la société civile burundaise ne doivent plus non plus se mêler avec la politique, selon le président burundais.
Nous avons vu dans un passé récent et même aujourd'hui que la société civile ainsi que les organisations apolitiques collaborent avec certains politiciens qui se sont égarés en voulant faire tomber le pays dans le précipice. Nous leur demandons d'être coopératifs en expliquant ce projet de référendum à la population sans se mêler de la politique, car chacun doit faire son travail.
Et pour Agathon Gwasa, vice-président de l'Assemblée nationale burundaise qui avait reçu l'invitation mais qui ne s'est pas déplacé pour la circonstance, des zones d'ombre subsistent.
La constitution, oui, les modifications, d'accord, mais pour satisfaire à quel besoin? Si c'est juste pour que le président Nkurunziza soit président à vie, quelle sera la valeur ajoutée dans la vie de cette nation? Si c'est pour qu'on aille vers un monopartisme d'État ou de fait, ça sera quelle valeur ajoutée comme modification de la Constitution? Donc voilà tout un tas d'interrogations qu'on peut se faire et qui malheureusement ne vont pas trouver de réponse dans le format de la Constitution que l'on projette se mettre au référendum bientôt.
Il est à rappeler que le 4e round des pourparlers inter-burundais d'Arusha n'a pas permis d'obtenir un accord entre les protagonistes politiques burundais et les sujets qui fâchent dans la question des mandats présidentiels restent légion. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
En Gambie, le projet de loi sur la commission Vérité, Réparation et Réconciliation va être débattu ce mercredi en vue d'un amendement. Ce projet promet l'amnistie aux auteurs qui témoigneront volontairement de leur rôle dans les violations des droits de l'homme. Ce que l'ONG Human Rights Watch dénonce, elle accuse l'ex-régime de Yahya Diame d'exactions extrajudiciaires qui ne peuvent bénéficier d'aucune amnistie. Yacouba Ouédraogo a joint Reid Brody, conseiller juridique de Human Rights Watch.
Le régime de Yahya Jammeh était responsable des assassinats politiques, des tortures systématiques, des disparitions forcées, des violences sexuelles, des attaques contre les homosexuels. Une vraie chasse aux sorcières. Il y a eu plusieurs cas de journalistes assassinés.
Comment vous avez réussi à matérialiser tout cela?
On est toujours en train de faire des enquêtes. Pendant le régime de Yahya Jammeh, déjà le travail de la société civils, des journalistes d'Amnesty International, de Human Rights Watch, ont pu révéler beaucoup de crimes. Mais depuis la chute de Yahya Jammeh, il y a presque un an, d'autres victimes se présentent, d'autres cas se font connaître. En ce moment, nous sommes en train de rechercher pas seulement les crimes, mais aussi la responsabilité personnelle de l'ex-président Yahya Jammeh.
Vous soupçonnez Yahya Jammeh de chasse aux sorcières et en son temps. Est-ce que vous ne craignez pas que le régime actuel tombe dans ce piège aussi de chasse aux sorcières là?
Non, je pense que le régime actuel, élu démocratiquement, est un gouvernement qui a de bonnes intentions.
Le projet de loi de la commission Vérité dit vouloir accorder l'amnistie aux auteurs qui témoignent de leur rôle dans des violations des droits de l'homme. N'est-ce pas là une sorte d'impunité?
Le droit international ne permet pas qu'on amnistie des crimes internationaux tels que la torture, le viol, les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires. Donc, nous souhaiterions que, lors de l'examen par l'Assemblée nationale de cette proposition de loi, que cette partie sur l'amnistie soit amendée pour qu'il s'accorde avec le droit international et aussi avec le bon sens.
Au cas où la loi passe dans son projet actuel et que l'amnistie est finalement accordée aux personnes qui décident de témoigner volontairement des exactions, est-ce que vous comptez poursuivre ces personnes-là devant les juridictions internationales?
Nous ferons tout pour amener le futur commissaire membre de la commission à ne pas accorder l'amnistie pour les crimes internationaux. La commission a déjà un mandat de 2 ans. Ne brûlons pas les étapes. Travaillons à ce que d'abord la loi soit amendée. S'il n'est pas amendé, que la commission n'accorde pas l'amnistie là où elle ne doit pas l'accorder.
C'était Reid Brody, conseiller juridique de Human Rights Watch, joint à Banjul.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En marge de la commémoration officielle de la fête nationale de l'indépendance du Burkina Faso dans la ville de Gaoua, notre correspondance est rendue dans la région qui fait face à un manque d'infrastructures pour booster son économie. Elle doit aussi faire face à un phénomène, l'orpaillage, dont les effets sont contrastés pour le développement de la région. Le reportage d'Issa Napan.
Nous sommes ici sur le site d'orpaillage de Dikondi, à quelques encablures de la ville de Gaoua. C'est la capitale de la région du Sud-Ouest et chef-lieu de la province du Pony, devenu un site à ciel ouvert, tant l'orpaillage a pignon sur rue. Ils sont plus d'une centaine de personnes chaque jour à creuser, concasser et laver pour trouver de l'or dans une certaine vie communautaire, explique Yaya Traoré, alias Koroba, orpailleur.
L'or a fait beaucoup de choses pour ils ont gagné, ils ont payé des voitures même, des motos. Moi-même, seulement j'ai payé des motos. Je suis en train de construire même. Ici, si on trouve que quelqu'un qui est malade, on fait réunion. Chacun n'a qu'à donner contribution. On va prendre la personne là, aller à l'hôpital soigner. Quand on va concasser comme ça, aller à la machine, écraser, venez laver, on met au mot et puis on mélange. Ça devient comme banco. Tu finis maintenant et c'est là-bas, tu mets mercure et tu frottes pour que le mercure là s'attrape. L'or là, mais sans mercure, l'or là, ça ne peut pas sortir.
L'exploitation artisanale de l'or ici est une préoccupation majeure pour la population autochtone. Les conséquences de la déscolarisation des jeunes, des conflits et maladies en tout genre reviennent fréquemment, soutient Drissa Tou, directeur provincial en charge de l'action sociale et de la famille de la province.
C'est une activité qui est la source même des conflits intergroupes ou intercommunautaires. Si ça devient un conflit intercommunautaire, ça nous revient sous forme de personnes sinistrées ou bien de personnes touchées par une crise à gérer aussi. Ces orpailleurs là, nous les sensibilisons à la nécessité de ne pas utiliser les enfants. Je pense qu'il y a le départ qu'il faut faire entre les travail socialisants et les pires formes de travail qui sont interdites par la loi. Mais la réalité est triste. À chaque fois qu'on se rend sur un site, on ne peut pas ne pas trouver des enfants en train de travailler. Il faut réellement des moyens financiers aussi pour pouvoir régulièrement faire ces sorties de sensibilisation.
Un phénomène qui renvoie des effets contraires que ceux de résorber le chômage, comme cela pouvait être attendu, souligne le gouverneur de cette région du sud-ouest burkinabé, Taxé Banidiem.
Quand vous allez sur les sites d'Orpayal, vous pouvez trouver 20 000 de nos jeunes qui travaillent là-bas. Et ce sont des personnes qui se nourrissent essentiellement de l'Orpayal et aussi qui rejouent du coup la question du chômage. Il devient un problème parce qu'il est anarchique, parce qu'ils utilisent des produits dont ils n'ont pas la maîtrise. Je pense au cyanure, je pense au mercure qui empoisonne les eaux et qui empoisonne notre environnement. Les jeunes qui devraient se scolariser, ils sont en train de déserter les écoles. Les problèmes ne manquent pas et souvent même ça entraîne des morts d'hommes. Mais il faut que la présence de l'État, des forces de l'ordre là, amoindrisse les conséquences de ces incidents-là. Et c'est là où nous demandons que les plus hautes autorités d'État s'impliquent pour que nous soyons présents quand il faut l'être.
C'est un véritable village qui s'est créé autour de ce site d'orpaillage où les habitants essaient autant que faire se peut de travailler à la sueur de leur front afin de sortir de la pauvreté. À charge aux autorités de travailler à ce que les règles soient respectées et que les enfants, les élèves, les étudiants ne délaissent pas leur classe pour venir sur le site. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum braque les projecteurs ce jeudi sur la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. L'État hébreu s'en réjouit, mais le reste de la planète s'inquiète. Dans quel contexte s'inscrit cette décision du président Donald Trump? Quelles en sont les conséquences? Que signifie-t-elle pour le processus de paix au Proche-Orient et le conflit israélo-palestinien? Et pourquoi le statut de Jérusalem est-il à ce point délicat? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h08.
Le monde monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.